Création On Air. On Air. On Air. Creation On Air.
Bonsoir. La radio est un instrument dont on n'utilise qu'une seule touche. Cette phrase est contredite par les créations actuelles, mais correspond à une représentation de l'ORTF à ses débuts. Christophe Deleu, enseignant-chercheur sur la radio, est un de ceux qui s'est plongé dans les archives du Centre d'études radiophoniques dirigé par Roger Blin. Après-guerre, des rencontres sont organisées chaque semaine pour réfléchir sur la radio. Des intellectuels viennent livrer leur vision. Gaston Bachelard, Étienne Souriot, Georges-Emmanuel Clancier, Georges Duhamel. Des professionnels viennent aussi parler de leur métier. Pierre Billard, Albert Riera, Samy Simon qui signe « La radio recrée le monde », sans oublier Pierre Schaeffer qui le 18 juin 1949 pose la question « Le domaine radiophonique existe-t-il ?» Ce soir, question à une jeune fille nommée Radio.
Qui es-tu ? Comment as-tu fait pour abolir l'espace et contracter le temps ? Où veux-tu en venir en martelant ainsi notre tympan, notre rétine ? Connais-tu au moins les effets produits sur des multitudes de cerveaux humains par telle ou telle force que tu as déchaînée ?
Quand la radio s'interroge, les conférences du Centre d'études radiophoniques, 1948-1959, par Christophe Deleu et Gaël Gillon.
Rue de l'Université, au 37. Indiscutablement une adresse pour couverture de revue. Rue d'éditeur et de libraire, l'une des rues de Paris qui est restée paisible. Oui, sauf au 37. Un immeuble, une cour, un hôtel particulier, un jardin. Eh bien, justement, cet hôtel particulier entre cour et jardin, c'est là. C'est là, si l'on commence par la cave, qu'ont lieu les cours du Centre d'études radiophoniques. Enseignement pratique donné par des spécialistes à une soixantaine de jeunes gens qui se destinent aux carrières artistiques de la radio et de la télévision.
Bernard Blin, secrétaire général du Centre d'études radiophoniques, 1954.
J'avais rêvé un jour d'une radio qui pût venir au domicile de chacun pour remplir les foyers d'une présence vivante, qui pût donner à tous ceux qui sont seuls une compagnie. J'avais rêvé d'une radio qui permit d'environner l'auditeur d'un univers sonore. J'avais rêvé pour un tel univers d'une musique continue à laquelle de temps à autre se mêleraient quelques messages parlés. Dans cet univers musical émergeraient ainsi, de temps à autre, quelques témoignages sur le passé des hommes, aussi bien que sur leurs préoccupations et leurs aspirations d'aujourd'hui. J'avais rêvé qu'une telle radio devint familière à l'auditeur, et que l'auditeur ne soit pas un spectateur étranger et passif, mais soit au contraire un passager conscient et actif de ce voyage dans le sillage des ondes.
Cette émission se propose de vous présenter chaque semaine les expériences ou les résultats des groupes de recherche du Centre d'études radiophoniques, qui est en fait la section de recherche de la radiodiffusion française.
Ce centre d'études, qui travaille en liaison étroite avec le club d'essai sous la direction de Jean Tardieu, poursuit des recherches selon cinq directions: phonétique, psychologie, esthétique, électroacoustique et sociologie.
Toutes ces recherches ont un lien direct avec la radio, en ce sens que les résultats doivent être applicables aux émissions diffusées sur l'antenne.
C'est à l'élaboration de ces résultats que notre émission vous conviera tout d'abord.
Chaque groupe de recherche établit les textes d'expérience qui sont soumis aux auditeurs. Ces tests ont lieu dans nos studios. Aujourd'hui, nous vous les présentons en quelque sorte à domicile.
Voulez-vous nous aider en répondant aux questions qui vous seront posées ? Chacun de vous pourra ainsi améliorer la qualité des émissions futures.
Par conséquent, si les problèmes de l'expression radiophonique vous intéressent et si vous voulez bien accepter de participer à nos recherches pendant quelques instants, préparez une feuille de papier et un crayon. Voici notre premier jeu, notre première expérience.
Le champ d'activité et d'expérience s'étend à la Terre entière. Jamais depuis que l'homme s'est attaché au cours des âges à domestiquer l'univers, il n'avait réussi à ce point à le capter vivant dans les mailles de son filet. La radio est devenue à la fois une oreille et une bouche géante, et rien n'échappe plus dans le monde à sa curiosité vigilante. Peu à peu, le micro a pénétré dans les milieux les plus fermés, vaincu les dernières résistances, triomphé des suprêmes pudeurs. Il a sa place aujourd'hui à l'Académie française, au Collège de France, même au Parlement, et jusque sur les marches du trône pontifical. Que dis-je ? Le Vatican possède un des plus beaux postes d'émission du monde. Et l'on a vu, voici 5 ans, en rade de Tokyo, retarder d'une heure la signature de l'armistice qui devait mettre fin à la plus grande guerre de l'histoire pour permettre à des opérateurs de disposer leurs câbles et de régler leur niveau. C'est le plus singulier et le plus grand hommage que les hommes de guerre pouvaient rendre à cette dernière venue parmi les grandes inventions humaines. Et si vous voulez bien y prendre garde, c'est là un acte d'une portée immense, car enfin, ce jour-là, non seulement la radio a écrit l'histoire, mais elle lui a tout bonnement fait faire antichambre. Et l'histoire a dû attendre, en effet, pour devenir de l'histoire, qu'un modeste technicien eût compté dans son micro 5, 4, 3, 2, 1, 0, et lui eût fait signe d'un geste, allez-y.
Étienne Souriau, philosophe, 1950.
On tourne un bouton et cet univers fait irruption. Il apparaît brusquement. Il apparaît globalement, d'une présence massive, agressive quelquefois, et telle que cette apparition brusque, cette intrusion soudaine de l'univers radiophonique est un phénomène effrayant. Il a une sorte d'agressivité et qui tient en partie justement à ce que, à la fois, il nous parle, il s'adresse à nous, et nommément, chers auditeurs, et en même temps, il nous ignore, nous n'y pouvons rien. Il nous assaille, et si nous en avons assez, nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est de nous délivrer en tournant le pauvre bouton. Et encore, on ne peut pas le faire partout. Il y a des pays dans lesquels c'est impossible. En URSS, il y a des émissions qui sont données globalement et obligatoirement. Mais enfin, cette sorte de présence brusque, agressive, comporte même une sorte d'ignorance de nous-mêmes. Il y a des plaisanteries classiques qui figurent, par exemple, sous forme caricaturale, la jeune personne qui est en train de se déshabiller pendant que la radio fait des commentaires, mais sans simplement s'apercevoir de quoi il s'agit, elle est en réalité invisible. Eh bien, il y a comme une cloison perméable dans un seul sens entre cet univers et nous. Il vient sur nous et nous ne pouvons plus agir sur lui.
Je peux jouer, moi aussi ?
Oui, oui, bien sûr. Tenez, voilà du papier, un stylo, voilà. Le premier test a pour objet la détermination des caractéristiques de l'émotion comique à la radio. Monsieur David Viktorov, du Centre national de la recherche scientifique, dirige au centre d'études ce groupe de recherche.
L'émotion comique ? Mais pourtant, je croyais que depuis Bergson, le problème du rire était résolu.
Non, Bergson est dépassé. Le problème du rire en fonction de la radio est des plus complexes.
Oui, une des questions qu'on se pose en effet est de savoir si une émission publique est plus efficace sur l'auditeur que la même émission diffusée d'un studio.
En effet, parmi d'autres questions, c'en est une. Aujourd'hui, nous rechercherons à déterminer pourquoi telle histoire entendue à la radio nous fait rire, alors que telle autre ne nous amusera pas du tout.
Mais parce que la première histoire est bonne et la seconde mauvaise, voilà tout.
Sans doute, mais ce qui nous intéresse est de déterminer justement une majorité d'opinion pour rechercher ensuite les raisons de cette appréciation. Le fait de savoir que telle forme de comique porte alors que telle autre laisse indifférent permettra à nos chercheurs de dégager les constantes qui seront ensuite applicables aux textes à prétention comique.
Mais en quoi consiste le jeu ?
Eh bien voici. Nous allons écouter Jean Valton qui va nous raconter 3 histoires différentes. Nous demandons aux auditeurs de noter chacune de ces 3 histoires en fonction de sa vertu comique.
Noter ? Comment noter ? En chiffres ?
Ah non. Sur la feuille réponse, il suffira de qualifier chacune des histoires de bonne, moyenne ou mauvaise.
Très bien.
Alors, attention, voici la première histoire.
Ici, lorsque nous demandons à la radio le récit de certains événements, alors il semble que la radio, au lieu de nous livrer uniquement un son, établit une sorte de communication au moins idéale ou imaginaire entre les différents sens. Car lorsque j'écoute le récit d'un événement, je ne me contente pas du son. J'essaie de comprendre ce que le son signifie.
Louis Lavelle, philosophe, 1950.
Et pour comprendre ce que le son signifie, invinciblement,
j'essaierai de restituer dans mon imagination le spectacle visible de l'événement. Par conséquent, on peut bien dire que le propre de la radio, c'est d'utiliser le sonore. Mais elle utilise le sonore en évoquant le visible. Et je pense que celui qui fait le récit d'un événement à la radio présente un intérêt d'autant plus vif, ou d'autant plus talent, qu'il est capable, précisément, lorsque il fait le récit de l'événement, de permettre à tout le monde d'évoquer ce spectacle visible auquel correspond précisément le son qu'il profère et est destiné à l'évoquer.
Reprenons maintenant nos tablettes, car voici la suite de nos jeux tests.
Encore des histoires ?
Ah non, non, cette fois, il s'agit de la caractérologie des voix.
C'est-à-dire ?
Eh bien, M. Étienne Fuselier, agrégé de l'université, qui dirige au Centre d'études radiophoniques le groupe de recherche sur l'analyse de la voix, va nous répondre.
Eh bien, c'est très simple. Quand vous entendez une voix à la radio, vous imaginez un personnage en fonction de cette voix.
Oui.
Ce qui nous intéresse ici, c'est de déterminer les caractères physiques et moraux qui correspondent dans l'imagination de l'auditeur à divers types de voix.
Je serais curieuse de savoir ce qu'ils imaginent en entendant la vôtre.
Oh, sans doute différents traits qui n'ont guère de rapport avec la réalité, car les expériences précédentes ont montré que l'erreur était constante, mais aussi que cette erreur était unanime. Je veux dire que telle voix évoque chez la majorité des auditeurs le même type de personnage. Et cela nous permettra donc d'éviter que des voix soient employées à la représentation d'un personnage opposé à celui qu'elles évoquent de prime abord.
Alors, en quoi consiste le jeu ?
Eh bien, vous allez entendre un dialogue entre un agent de police qui établit un constat d'accident et un témoin de cet accident. Il s'agit de caractériser la voix du témoin.
Que doit-on répondre ?
Vous allez nous dire comment vous voyez physiquement et moralement ce témoin. Vous préciserez la couleur et l'abondance de sa chevelure, sa corpulence, sa taille, son âge, et vous direz à quelle catégorie sociale il appartient.
Une réponse correcte serait donc, par exemple, le témoin est brun, maigre, grand, 40 ans et avocat.
Exactement, si telle était votre impression. Alors attention, voici le constat d'accident. L'agent de police va parler le premier. À vous de caractériser le témoin.
Où étiez-vous au moment de l'accident ?
Sur le refuge.
L'auto a passé devant vous ?
Oui, juste devant moi.
Les signaux étaient au rouge ou bien au vert ?
Au vert.
Et est-ce que l'auto s'était arrêtée avant le croisement ?
Non, elle avait ralenti, mais dès que le signal a changé, elle a accéléré de nouveau.
C'est tout ?
Mais oui.
Mais c'est beaucoup trop court. J'en étais encore à savoir s'il était maigre ou gros.
Bon, ben très bien, je vous permets de l'écouter à nouveau.
Et je voudrais maintenant évoquer un autre moment de ma vie de reporter qui se situe, si je puis dire, aux antipodes de l'univers radiophonique. Car cette fois, il ne s'agit plus d'un événement mondial, mais d'un acte isolé au cœur d'un no man's land.
Samy Simon, journaliste à la Radiodiffusion française. 1949.
C'était il y a cela 2 ou 3 ans, aux environs de Tamanrasset, capitale du Hogar. En compagnie de mon ami Pagès, l'excellent technicien du service des reportages, je parcourais alors un morceau de Sahara, micro en main, à la recherche du moindre écho sonore. C'est une impression curieuse d'ailleurs que l'on ressent à se promener en plein désert avec le matériel qui sert d'habitude à enregistrer les voix du monde. Dans ces espaces illimités, le silence devient un élément naturel qui semble posséder une réalité physique, un volume, un poids, une densité qu'on croirait pouvoir mesurer. Le moindre son y apparaît comme une tache, un accident, une blessure. Et le chasseur de bruit y fait l'effet de ces paléontologistes obstinés qui remuent des tonnes de sable pour y découvrir un minuscule coquillage fossile ou un harpon de pierre datant du néolithique. Pour l'homme de radio, cependant, cette chasse a quelque chose d'exaltant. On s'aperçoit très vite que le micro possède un mystérieux pouvoir magnétique et que les sons répondent à son appel comme sous l'effet d'un sortilège et comme la nappe d'eau invisible à la baguette magique du sourcil. Comme par enchantement, l'étendue se peuplait de rumeurs, toute une étrange faune sonore se levait sur nos pas. Les lieux voués de toute éternité au recueillement et au silence semblaient tout à coup interrompre pour nous leur méditation millénaire. L'âge de pierre parlait. Je cueillais au passage, merveilleusement vierge et divers, les fruits clandestins du désert. L'appel lugubre d'un charognard, le claquement sec comme une giclée de mitraillette du bec d'une cigogne égarée dans les sables, le coassement d'un crapaud invisible, l'aboiement d'un chacal, autant de pièces rares arrangées avec précaution dans l'immense fichier que la radio établit et complète jour après jour. Les taches blanches diminuent sur notre atlas sonore. Un soir donc, j'arrivais dans un petit poste du hogar. Quelques Touaregs avaient dressé leurs tentes, un palmier ici et là jaillissait la dune, les méharis agenouillés ruminaient silencieusement, les yeux mi-clos. On entendait de loin en loin que le blatèrement d'un chameau, le cri d'un enfant ou le you-you strident des femmes. Le soleil se couchait dans une débauche de pourpre, de violet et d'or. Toute la poésie tant de fois décrite du désert m'envahissait de sa magique présence. Je dînais chez l'officier qui commandait le poste et dans la nuit qui était venue, il me proposa de me faire entendre Paris grâce à un petit appareil qui fonctionnait sur batterie d'accumulateur. Cela, je l'avoue, me parut un peu sacrilège. Il me semblait que c'était porter atteinte à l'admirable pureté de la nuit saharienne. Mais par politesse pour mon hôte, je m'associais à ses recherches et pendant un bon moment, nous bombardâmes le désert de chuintements, de sifflements, de stridences, comme il arrive qu'on en entende parfois pour des raisons indépendantes de notre volonté sur les antennes. Tout à coup, au milieu de ce magma de bruit, une voix jaillit relativement claire. C'était Paris. C'était Paris, en effet, et qui diffusait une émission qui eut pendant quelques mois les honneurs de l'antenne et qui s'appelait « Les grandes heures de la comédie française ». Une sorte de reportage rétrospectif, écrit d'après le livre de Jean Valmibès, et qui faisait revivre chaque semaine les grands moments de l'illustre maison. Ce soir-là, on en était arrivé à l'épisode de la mort de Molière. Et quand nous captâmes l'émission, c'était au moment précis où le reporter nous faisait assister, avec une émotion qui ne semblait pas feinte, à la cérémonie des obsèques du pauvre Pocla. Et quand cette voix vint nous frapper brusquement au cœur du désert, je reconnus soudain, avec stupéfaction, que cette voix, c'était la mienne. Et d'ailleurs, la voici.
Et c'est ainsi que le 20 février 1673, à 9h du soir, une grande foule se presse dans la rue Richelieu. Armande vient d'ouvrir les fenêtres qui donnent sur la rue, et la forêt et Provençal ont jeté 1200 livres en petite monnaie de 5 sols, 1200 livres pour les pauvres. On s'est battu devant le porche, et Armande elle-même s'est mise à la fenêtre pour ramener le calme.
Priez plutôt pour l'âme de celui qui fut un homme de bien, un artiste de grand talent et un bon chrétien. Merci, mes amis.
C'est bien qu'en ce moment nous parvint en plein désert, mon hôte mit, je l'avoue, quelque temps à réaliser. Je vis son visage changer d'expression et une espèce de stupeur l'envahir. Durant quelques secondes, tout devint pour nous incompréhensible. L'univers changea soudain d'aspect, de forme, de nature. La pyramide un instant reposa sur la pointe. Une fantastique contraction de l'univers, une sorte de tremblement de terre dans l'espace et dans le temps, nous projeta brusquement hors de nous-mêmes. Dans le lieu de tout temps consacré au silence, l'irruption des voix du monde, c'était comme un énorme rocher tombant sur la nappe immobile d'un lac. Et mêlé dans une intime fusion, ces voix du monde, c'était à la fois le présent dans sa foisonnante multitude, le passé avec Molière et son cortège de fantômes soudain rendus à l'existence et que rien ne distinguait plus des vivants. Et enfin, c'était moi-même avec ma propre voix, venant à travers l'espace, m'arracher à moi-même. Quel était le vrai ? Et où étais-je moi-même, sur quel versant, à quel mystérieux confluent de ces deux mondes? Eh bien, cette étrange sensation d'une vie dédoublée, d'un univers en transparence. Quel poète jamais sur le papier? Quel dramaturge sur une scène? Quel film même pourrait le traduire? Si on savait aussi, lorsqu'on parle ou qu'on chante devant un micro, de quel profond message on charge parfois les antennes et que l'on reconstruit à chaque seconde l'univers pour des milliers d'êtres épars aux quatre coins du monde, sans doute aurait-on peur, aurait-on raison d'avoir peur, quelquefois, de ce pouvoir de thaumaturge. Heureusement, on n'y songe pas. C'est cette soirée de Lucerne et ce reportage différé de la mort de Molière capté en plein désert, tels sont, à mon avis, les deux cas limites du registre à l'intérieur duquel se situe aujourd'hui le langage radiophonique. Dans le premier cas, il recrée un unanimisme qui identifie l'individu à la collectivité, et dans le second, au contraire, c'est l'individu qui accueille le monde et s'amplifie démesurément jusqu'à le contenir tout entier. Et non seulement dans l'espace, mais dans la durée, aboutissant ainsi à la matérialisation du concept einsteinien de la quatrième dimension, à la perception physique d'une notion jusqu'alors abstraite, la notion espace-temps. Je crois qu'aucun art n'avait pu encore s'imposer pareillement à nos sens et ajouter avec une telle puissance de suggestion à nos notions élémentaires. Et ainsi assistons-nous peu à peu, non seulement à une prise de conscience plus totale du monde, mais encore, ce qui est peut-être plus important, à une forme nouvelle de cette prise de conscience. Monsieur Dupont, français moyen, prend plaisir à écouter telle ou telle émission de Pierre Dac ou de Robert Beauvais, ou la retransmission d'un spectacle qui lui apporte à domicile l'écho d'une salle vivante. Mais ce même monsieur Dupont, en d'autres circonstances, se figera devant son poste pour écouter un petit communiqué sec et tranchant comme une guillotine, lui annoncer, comme certains soirs de septembre 39 par exemple, qu'il vient à son corps défendant d'entrer dans une nouvelle phase de l'histoire. Quand la radio n'existait pas, monsieur Dupont se promenait dans la vie avec la rassurante certitude d'être à soi-même un univers confortable, bien retranché, invulnérable. Les bruits du monde n'arrivaient jusqu'à lui qu'après s'être amortis dans le temps et l'espace et venaient mourir à ses pieds comme les vagues de l'océan au bord de la grève, sans ébranler cette certitude. Les événements le surprenaient au gîte, comme le lièvre dans son terrier, et s'il devait en mourir, il le faisait simplement sans avoir eu le temps de réaliser le pourquoi et le comment de cette étonnante aventure. Mais depuis l'avènement de la radio, M. Dupont est aux aguets, et chaque jour, devant son poste, il flaire et renifle le monde qui ne cesse plus de lui parler. Et il sait maintenant qu'il en représente une partie, infinitésimale peut-être, mais qui, bon gré mal gré, est entraînée par lui. Ainsi, pour le meilleur et pour le pire, tous les Dupont du monde ont-ils droit désormais à une existence multipliée, sans comparaison avec celle de leurs ancêtres. Tous ensemble, ils vivent une aventure extraordinaire, car issus pour la plupart du temps d'une époque où tout était bien compartimenté, bien cloisonné, comme les cellules dans la ruche, les voilà tout à coup, sollicités à tout instant, par des événements dont certains se déroulent à des milliers de kilomètres, et reliés physiquement et instantanément, comme par un réseau invisible, à toutes les parties de l'univers. C'est avec son oreille, maintenant, en attendant mieux, que M. Dupont apprend la géographie et quelquefois l'histoire. Et son atlas sonore, pour lui aussi, contient de moins en moins de taches blanches. Et peu à peu, sans même qu'il s'en doute, son univers s'élargit et son vocabulaire change. Car c'est là où je voulais en venir, c'est grâce à la radio que cet univers se construit pour la plupart d'entre nous. Mais c'est par la radio aussi que nous recommençons à les plaire. Et en voulez-vous la preuve ? Écoutez simplement ces quatre notes.
Ici, non.
Eh bien, si je vous demande, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que cela ? Je sais d'avance votre réponse. Pour combien d'entre vous, ces quatre notes sont-elles seulement quatre notes arrachées à une symphonie de Beethoven ? Et en effet, elles se sont bien littéralement évadées de cette œuvre. Et pour des millions d'auditeurs, elles sont liées à jamais à ces moments que nous avons vécus et où il était à la fois si imprudent et si magnifique de les entendre. De même, y eut-il un moment de notre histoire récente où certaines voix rauques et brutales, suivies de hurlements hystériques, représentaient pour chacun de nous la voix même du malheur et se mettent au plus profond de nous-mêmes une sorte de panique intérieure, y éveillait je ne sais quel instinct ancestral qui nous prévenait avec une force, une certitude irrécusable de l'imminence d'un danger tel que depuis 1000 ans, le monde civilisé n'en avait plus connu.
Sie fressen und ächteten Demokratien, die die Welt heute kennt, sind die Deutsche und die Italienische. Unser Führer, Sieg! 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 Sieg!
L'apologue des langues d'Ésope n'est pas d'hier. Mais la radio a multiplié le mal comme le bien.
Paul Lévy, directeur de l'information au Conseil de l'Europe, 1952.
Il est peut-être vrai, comme le disait Adamowski dès 1933, que pour un régime totalitaire, pour une philosophie totalitaire, pour un régime fasciste ou nazi, la radio est un instrument idéal. Il est évident, en vous résumant tout à l'heure ce qui se trouve dans ces divers documents, je me rappelais au moins ces deux phrases tout à l'heure d'Adamowski, « La radio est le moyen caractéristique d'expression du national-socialisme. Seul le mouvement nazi a donné à la radio son véritable sens. » Eh bien, au sens où Adamowski l'entendait, il est évident que l'utilisation totalitaire de la radio est la seule utilisation logique d'un tel instrument. Il est évident que par le moyen du contact direct qu'elle donne à l'auditeur, elle est un instrument de profonde influence, surtout qu'elle donne à l'auditeur l'impression de contact avec celui qui lui parle. Une certaine impression de participation, de puissance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu il y a quelques semaines un excellent article de fond d'André Siegfried dans le Figaro qui montrait, et là peut-être André Siegfried allait-il un peu loin, qu'alors que les dimensions des sociétés modernes ont transformé le sens de la démocratie, l'intervention de la radio a rétabli ce jeu de la démocratie. Ce que je crois surtout, c'est que l'intervention de la radio a rétabli l'impression de ce jeu de la démocratie. Parce que l'auditeur se sent proche de celui qui lui parle, il s'imagine qu'il a quelque chose à dire, alors que peut-être il n'a pas plus à dire que s'il le sentait moins proche. Ce qui est un sentiment, dans le fond, cette impression, est un sentiment extrêmement dangereux, car elle donne aux citoyens moyens l'impression d'une puissance qui lui échappe à mesure que les mécanismes politiques et le mécanisme de la société se compliquent. Il est certain que la radio, au sens où l'entendait Adamowski, fascine l'auditeur et peut contribuer à le subjuguer. Mais d'autre part, et si les langues sont les plus mauvaises des choses, les langues sont aussi les meilleures des choses, mais d'autre part, les ondes passent les frontières. Les ondes permettent des interventions dans d'autres sens que celui que veut bien indiquer le dictateur. Les ondes permettent le refus par l'auditeur, permettent à son intelligence et à sa raison de jouer, lui permettent de faire des comparaisons. C'est-à-dire que l'instrument n'est pas aussi totalitaire que voulait bien nous le faire croire le théoricien de la radio nazie. D'où nécessité, et nécessité impérieuse, parce que cet instrument excellemment bon à leurs yeux est aussi un instrument terriblement dangereux pour leurs objectifs, d'où nécessité pour les régimes totalitaires de discipliner cet instrument, de le domestiquer, de domestiquer un serviteur qui peut devenir rebelle. Nous assistons là à un phénomène extrêmement intéressant au point de vue sociologique, celui de la rébellion d'une technique libératrice, libératrice par essence, car la technique de la radio est une technique libératrice, est une technique de grand air, de plein air, de vue sur l'extérieur, et on veut la servir lorsque, par essence aussi, on veut être un régime étroit, dictatorial, renfermé, resserré et étriqué.
Sur les ponts du Rhin, où est la frontière de la France, les hommes de la Révolution avait inscrit ces mots, aujourd'hui encore vivants. Ici commence le pays de la liberté. Nous espérons profondément qu'à travers l'univers rafté par tant de souffrances et de courage, le pays de la liberté, de la démocratie et du droit s'étendra désormais à toutes les terres ou au vent nouveau qui s'élève, les hommes paisibles veulent tenter de vivre.
Ce voyage, dans le sillage des ondes, se poursuit. Peut-être faut-il faire une pause, ou une simple pause, pour rappeler à l'auditeur les escales de ce voyage dans l'univers sonore. Une lettre authentique du général Marceau. Quelques informations de 1794, un poème de Villon, un témoignage recueilli sur une péniche, une histoire d'Alphonse Allais. Au milieu de ce fluide musical surgissent ainsi quelques séquences glanées au hasard des époques, quelques séquences témoins des préoccupations des hommes d'hier et d'aujourd'hui. Au gré des souvenirs, au gré de l'imagination, chacun peut ainsi faire son propre chemin. N'est-ce pas un magnifique privilège que de pouvoir donner à entendre une matière que chacun perçoit à sa façon? Donner à entendre, c'est donner à rêver, mais c'est aussi donner à réfléchir. Pourquoi ce programme, élaboré avec tous les chercheurs du Centre d'études radiophoniques, ne serait-il pas votre programme? Combien il serait précieux de savoir l'accueil qu'il a reçu dans tous les foyers où il parvient? Pourquoi ne pas engager le dialogue? Aimez-vous telle musique? Contestez-vous le choix de telle séquence? Suggérez-vous tel ou tel reportage? Les observations ne manquent pas. Et puisque nous plaçons ce sillage des ondes sous le signe du dialogue, sachez qu'il est facile pour vous de nous écrire. Sachez que toute indication nous est précieuse. Pour satisfaire les auditeurs, ne faut-il pas connaître leur goût et leur réaction?
Jean-Wilfried Garrett, metteur en ondes, 1949.
C'est ainsi que de trucage en trucage, on en est venu à rechercher de nouveaux moyens d'expression en essayant d'échapper au réel. Ou plutôt, ce n'est plus la réalité d'un univers extérieur qui a été le centre d'intérêt, mais une réalité subjective, non plus la réalité du théâtre, si vous voulez, mais celle du poète. Tous les défauts techniques que l'on avait combattus avec tant d'acharnement, on s'est mis à leur trouver des valeurs esthétiques. On a mutilé les voix, on les a déformées, et le comédien n'est plus devenu qu'un instrument aux mains de l'auteur et du réalisateur. Il se trouve du reste qu'on a un peu découvert l'organe avant la fonction. On a fait des expériences pour voir, tout comme les premiers alchimistes. Voici par exemple un enregistrement qui est un des classiques dans le domaine des déformations vocales, Le vent de Vérarenne par Marie-Louise Vanvine. Ici, la voix est filtrée et passée dans une chambre d'écho, suivant des modes qui tentent de souligner le sens des mots. Je m'excuse, le document que je possède est un petit peu usé, il y a un bruit d'aiguille un petit peu important, mais malheureusement c'est le seul qui existe actuellement.
Le vent des peurs et des déroutes, l'avez-vous vu cette nuit-là? Voici le vent hurlant, voici le vent tornant de bande.
Vous voyez à quel point l'étrange et le fantastique étaient désormais à portée de la radio. Et je voudrais vous faire entendre en illustration de cette tendance quelques extraits de réalisation des radioclubs.
Tu as les oreilles qui tinguent, grand-mère, comme tous les vieux ici.
Ah oui, je le connais, votre orgue. On l'entend chaque fois que le vent vient de terre.
Comment ça? Explique.
On raconte qu'il existe dans les terres un monde d'où viennent parfois des sons d'orgue, des sons de cloches et autres balivernes qui attirent les gens.
Mais ça existe pour de vrai?
Ça y est, lui aussi.
N'empêche que quand le bateau, c'est que votre père.
Allons, grand-mère, il est temps de se mettre à table.
Jean-Marie, raconte.
Il n'y a rien à raconter, Joël. Chacun dit l'histoire à sa manière. Il y a toujours des bedeaux mélomanes où les cloches des bateaux phares pourraient effrayer les vieilles gens.
Il n'y a pas que ça, Jean-Marie. D'ailleurs, on verra bien.
Comment on verra bien?
Oui, à parce que je le connais, cet orgue. Je l'ai dit souvent à mon frère, il ne veut pas me croire. Je voulais qu'il vienne avec moi.
Où ça?
Chercher d'où ça vient. Il ne veut pas. Je ne peux tout de même pas emmener le petit. Mais toi, Jean-Marie, tu viendras avec moi.
Jamais de la vie, tu es folle.
Alors j'irai seule.
Tous ces textes, les textes de ces types d'émissions, appartiennent au genre dramatique, avec parfois des tentatives tout de même de poétisation. Et en effet, dans l'orientation actuelle de la radio, tous les textes sont dramatiques en ceci qu'ils consistent en une réunion plus ou moins marquée de personnages dont chacun a son individualité propre. Il n'existe, pour ainsi dire, pas de dialogue dépersonnalisé. Mais essayez d'admettre ce nouveau mystère, et vous lui trouverez au moins un précédent illustre, une entité unique mais polyvocale, je devrais même dire polysonore, puisque le terme polyphonique a déjà un sens consacré par l'usage. Imaginez un seul être, une seule pensée, une seule sensibilité créatrice, mais à plusieurs voix, anonymes du reste. Supposez que ces voix soient celles de l'auteur et à la fois celles de l'auditeur. L'auditeur, cet être collectif, cette unité au pluriel. Représentez-vous une évocation conçue de telle sorte que cet auditeur puisse enfin, comme disent les psychanalystes, projeter son moi, sa psyché et tous ses attributs, c'est-à-dire la sensibilité, l'émotivité, la mémoire diffuse, etc., dans un univers sonore subjectif et autonome, dans une phonosphère où tout reposerait sur l'affectivité et non l'intellectualisme. Et c'est là une condition absolue de possibilité, du reste, pour une telle projection. Imaginez cela et vous concevrez alors l'existence latente, je dis latente parce qu'elle n'existe pas encore en fait, d'un des styles radiophoniques les plus efficaces. Un renouveau du récitant, oui, si l'on consente à oublier le mot récit dans récitant. Convention en moins, on retrouverait le sens profond du cœur antique. Quand dans cette poétique radiophonique, le texte sera devenu prétexte, le mot un relais mental, une impulsion affective, on pourra de nouveau se préoccuper des couleurs de voix et de la mise en œuvre de procédés techniques qui, le plus souvent, ne sont actuellement, il faut bien le reconnaître, que des expédients. Et du même coup, on aura réalisé ce rêve des poètes qui, si loin qu'ils aient pu aller, se sont tout de même trouvés limités par certaines conventions nécessaires dont les moindres ne sont certes pas le graphisme même de l'écriture et l'absence des autres éléments affectifs de cette phonosphère que peut créer la seule réalisation sonore. Cette poétique reste à créer, le besoin en est réel, et bien des matériaux épars, il est vrai, existent déjà, ainsi que l'outillage technique. Il est dans ce domaine une pièce qui me paraît d'une grande valeur. C'est une émission conçue et réalisée toujours par les étudiants de la Maison des Lettres sur des textes d'Antonin Artaud. Ce texte, séparé de son cadre sonore, perd absolument toute valeur, car il n'est fait que de sonorité et d'impression. Et pour leur donner un sens et une continuité, la réalisation a été nécessaire. Et à cet égard, je peux vous dire qu'au moment de l'enregistrement, le technicien qui était chargé de la prise de son a réussi à tenir à peu près une heure derrière ses potentiomètres et il a dû abandonner la partie après, car l'audition microphonique l'avait mis dans un état de nervosité extrême et il ne pouvait absolument plus toucher ses boutons ni toucher ses disques et il ne pouvait plus y arriver. J'ai dû moi-même le remplacer au bouton et je n'ai pas tenu beaucoup plus longtemps que lui. Tant qu'aux interprètes, quand ils sont sortis du studio, ils avaient les yeux absolument exorbités. Enfin, j'ai assisté vraiment à une scène de presque d'hystérie collective et j'ai compris à partir de ce jour-là à quel point les musiques primitives pouvaient avoir une valeur intense. Voici l'émission sur Antonin Artaud.
Antonin Artaud, où le langage prend corps.
Disons que je ne suis pas de ce monde-ci. J'ai voulu dire que j'y suis, mais que je viens d'ailleurs que de sa morale, de sa religion, de sa mystique, de sa physique, de sa métaphysique, de sa science, de sa médecine, et aussi de son anatomie et de sa physiologie.
C'est dire qu'on ne parle pas d'Artaud sur le plan des idées, de la seule conscience intellectuelle. Ce n'est pas là qu'il travaille, mais véritablement sur le plan physique, non des valeurs à réviser, mais du corps à refaire.
Les idées ne vont pas sans membres. Et alors, ce ne sont plus des idées.
Le prochain indice sera repéré à la tâche après cette émission-là. Non, après cette émission.
Le monde du mental ne fut jamais que ce qui reste d'un piétinement infernal d'organes. Lorsque l'homme qui les porte n'est plus, c'est la pensée d'en bas qui mène. Il n'est point de critères, d'esprit, de jugement. L'esprit n'est plus qu'une mémoire adventice. Plus un corps est un corps, plus il est loin de l'esprit et de sa conscience, et plus il a de mérite en lui, et plus l'idée de mérite s'enfuit avec sa valeur et sa qualité, et plus la vie du corps propre l'empêche de se différencier entre valeur et qualité et désespère la qualité d'exister. Et plus le corps rayonne en entier dans l'oubli de la valeur intrinsèque et de l'esprit de la qualité. Et plus il rayonne et devient concret parce que le corps a voulu se pressurer et ramasser pour devenir corps en entier, dans la haine de la spiritualité. Le principe de la yoga est assis dans le bonheur éternel d'avaler la douleur des autres. Ce qui est corps, la dématiation de la matière de soi-même, gagné par soi-même, ce qui n'a pas été gagné dans la douleur de soi-même, tombe à l'heure de la mort. Qu'advenir du pur esprit et qu'une partie du corps devienne de la mauvaise matière du pur esprit. L'on médite, Bata, ton tazirubida, la médite, Bata, tu dis, Baelich, Bertos, la médite, Bordi, médite, Bordi, médite, Papa, Zizita, Zizita Ravi. Ainsi périssent les esprits de tous ceux qui n'ont jamais voulu se donner la peine d'avoir un corps et veulent malgré tout avoir droit de citer dans le règne des corps vraiment solidifiés. Car rien qui bestialise un être, comme le goût du bonheur éternel, la recherche à tout prix du bonheur éternel, et mademoiselle Lucifer et cette pute qui n'a jamais voulu quitter le bonheur éternel. Mais maintenant, la vieille prospection cosmique de Dieu n'aura plus lieu. La fameuse dimension totale est de devenir en simple homme aussi fort que tout l'infini.
Pouvoir, par conséquent, par la radio, suggérer à un autre avec des paroles une pensée qui lui apparaît comme jaillissant de son propre fond, comme étant la sienne même, et non pas seulement celle de celui qui parle. Voilà sans doute le dernier point auquel la radio est capable de parvenir.
Louis Lavelle, philosophe, 1950.
Et si nous avons étudié ainsi les aspects différents que l'on peut distinguer dans la manière dont on peut écouter la radio, il faudrait que nous fassions aussi une distinction analogue dans les différentes manières dont on peut s'exprimer devant la radio, celui qui parle. Car il y a là sans doute un apprentissage de la radio, et dans cet apprentissage, je suis singulièrement novice. Mais je puis imaginer cependant l'attitude de celui qui parle devant un appareil comme celui-ci. Alors, il me semble que nous sommes ici, malgré l'effort par lequel on a essayé de réaliser ce soir une union entre un public réel, présent, et un public lointain et absent. Il semble cependant que nous soyons là en présence de conditions particulièrement originales et qui doivent nous permettre de reconnaître en quoi consiste la signification véritable de la radio. Car parler, c'est toujours parler à quelqu'un. Quand il n'y a pas de public, à qui celui qui parle peut-il s'adresser? Je pense que il s'adresse d'abord à l'appareil qui est là devant lui. Il le personnifie. Tous ceux qui parlent de la radio m'ont dit en général que cet appareil était pour eux singulièrement encombrant, qu'il les empêchait de suivre le cours normal de leur pensée, qu'il établissait une sorte d'écran entre leurs paroles et leurs pensées. Mais c'est parce que cet appareil s'impose à eux malgré eux. Et c'est à lui qu'ils parlent. Et sans doute, quand ils se le représentent comme étant seulement un appareil mécanique, je comprends qu'ils éprouvent cette gêne et l'éprouvent moi-même. Mais si on éprouve un certain embarras, c'est pour une raison beaucoup plus grave encore. C'est parce qu'on sait que cet appareil ne personnifie pas seulement un personnage idéal, qui serait une sorte d'auditeur figuré. Nous savons que cet appareil a un caractère divin, ou si vous voulez, diabolique, en ce sens que il est un médiateur. Il est un médiateur entre moi qui parle et un nombre considérable d'auditeurs que je ne vois pas. Il a par conséquent une puissance extraordinaire que ne possède pas ma voix. Et je sens par conséquent toute la responsabilité de la moindre de mes paroles. Je sais qu'elle va toucher des auditeurs que je ne vois pas. Et cela grâce précisément à cet appareil qui, malgré moi, et quelle que soit l'attitude que je puisse prendre, enregistre tout ce que j'aurai à dire, le bon et le mauvais, les erreurs d'élocution que je puisse faire, mes pensées justes ou fausses. Rien ne lui échappe. Et par conséquent, son rôle est de le transmettre précisément à des auditeurs que je ne vois pas, mais auxquels pourtant je pense. Alors, de cet auditeur, que faut-il dire? Quels sont ces auditeurs auxquels je songe? J'ai dit que c'était des auditeurs absents. Oui, sans doute. Mais je sais pourtant que ces auditeurs sont très nombreux. Je sais aussi, comme je l'ai dit, qu'ils ont pour moi un certain caractère anonyme. Je ne les connais pas par leur nom. En fait, je parle à une multiplicité infinie d'auditeurs possibles, au-delà même des auditeurs réels qui seront à l'écoute. Je parle à tous ceux qui pourront un jour prendre l'écoute. Et par conséquent, je sens bien que la parole ici s'adresse non pas à un être isolé, non pas à un public plus ou moins nombreux, mais qu'elle s'adresse en droit à tous les hommes qui peuvent entendre. Par conséquent, ma parole, au moment où elle s'adresse en apparence au micro, elle rejoint en droit tout auditeur possible. Elle a un caractère d'universalité potentielle, si vous me permettez d'employer ce terme barbare. Et par conséquent, il semble que le propre de la radio, c'est précisément de couper toute relation entre moi qui parle et un auditeur particulier vivant situé à un point déterminé de l'espace et du temps. Le propre de celui qui parle à la radio, c'est sans doute avant de parler à autrui, de se parler à lui-même. Et l'on peut dire que il n'est capable de communiquer sa pensée qu'à condition qu'il ne songe pas d'abord à la communiquer, qu'à condition que cette pensée naisse en lui, qu'à condition qu'il en vérifie la nature au moment même où il l'émet, qu'à condition par conséquent que cette pensée apparaisse comme étant en réalité l'expression la plus profonde de ce qu'il y a de plus personnel en lui, et que, au moment où il cherche précisément à atteindre le public le plus étendu, il parle toujours comme s'il se parlait à lui-même. Et je pense que c'est en cela que consiste la forme la plus élevée que l'on peut donner à la communication qui se produit entre les consciences par le moyen de la radio. Alors, nous verrions se rejoindre ce que nous avons considéré comme étant la perfection de la radio pour l'auditeur à ce qu'est la perfection de la radio pour celui qui parle, car je disais que celui qui entend doit à la limite avoir l'impression que les pensées qu'on lui communique sont les siennes propres, qu'elles sortent de lui-même. Mais cela n'est possible sans doute qu'à condition que les pensées que celui qui pique soient aussi ses propres pensées, et que par conséquent, au lieu de penser pour un autre, il pense par lui-même. À ce moment seulement, on a l'impression sans doute d'une communication réelle, actuelle, vivante, spirituelle, entre deux consciences. C'est le point le plus haut auquel sans doute la radio peut parvenir. Et si je voulais conclure en montrant en quoi consiste le nouvel art de persuader, alors je dirais, pour persuader vraiment, il ne faut pas chercher à persuader. Il faut que la pensée présente naturellement son caractère de naturel. Il faut qu'elle présente en elle-même une force qui soit inséparable de sa sincérité même. Et alors les hommes s'aperçoivent qu'il y a en eux une sorte de fond commun, et que ce qui est vrai pour l'un est vrai aussi pour l'autre, et que c'est quand ils descendent jusqu'au fond de leur propre intimité qu'ils aperçoivent qu'au lieu d'être séparés les uns des autres par des différences infranchissables, il y a entre eux une identité et une communion profonde. Par conséquent, je dirais que le point extrême de la radio apparaît sans doute comme étant le même chez celui qui parle et chez celui qui écoute. Et je dirais que dans ce point extrême, ce que l'on cherche à réaliser, c'est par une sorte de mutuelle médiation, une attention continue à soi-même.
Vous qui êtes resté jusqu'ici avec nous, merci de votre attention. Mais pour que votre effort ne soit pas inutile, veuillez prendre la peine de poster vos réponses ainsi que toute suggestion concernant notre émission.
Vos réponses doivent nous indiquer votre appréciation des trois histoires drôles et les caractères que vous avez prêtés aux témoins de l'accident.
Ces réponses doivent nous parvenir le plus tôt possible à l'adresse suivante.
Centre d'études radiophoniques, 37 rue de l'Université, Paris 7e.
Dimanche prochain à la même heure, nous rendrons compte des réponses et des observations que nous aurons reçues.
À dimanche.
Merci.
Et bonne soirée.
Vladimir Porcher, directeur général de la radiodiffusion française, 1948.
La radio tend donc, si elle est convenablement orientée, à ramener l'individu vers un effort de concentration de la pensée, vers un retour à la réflexion, retour au rêve, retour à la réflexion. Ce sont là des effets extrêmement importants et mais dont l'importance se situe peut-être moins dans l'instant où cette impression est reçue que dans les instants qui la suivent. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, la radio et demain la télévision valent beaucoup moins parce qu'elles ont de fugaces que par leur pouvoir de pénétration. Et par le fait que cette pénétration se traduit dans les instants qui suivent par une impression prolongée, par une sorte d'illustration mentale très intime, cette impression reçue, par un prolongement. Ce prolongement, c'est précisément là où se situe le besoin de silence. Lorsque vous venez de recevoir une impression auditive ou une impression visuelle très forte, vous éprouvez le besoin de vous abstraire de celle qui suit. Vous éprouvez le besoin de fermer le bouton du récepteur. Il serait souhaitable que la radio ne se borna à point à constituer une sorte de compagnie permanente, de fond musical plus ou moins agréable, qu'elle doit être aussi. Mais il serait souhaitable que par une éducation progressive du goût de l'auditeur, on arrivât à ce résultat qu'après l'audition d'un programme de qualité particulière, celui qui l'a entendu désire effectivement tourner le bouton et se retrancher en lui-même pour mieux savourer l'impression ressentie, pour mieux entendre se répercuter en lui les échos de cette impression, pour mieux laisser émerger, soit du souvenir, soit de l'inconnu, toutes les satellites que ce choc aura pu déterminer et tendra à réunir autour du noyau de l'impression elle-même. Or, pour que ce mécanisme mental puisse jouer, il faut vraiment le silence, et un silence d'une qualité particulière. Dans un monde où le bruit règne d'une façon qui devient véritablement abusive, il se pourrait que la radio, une radio d'une certaine qualité, se situant dans le domaine où elle est véritablement une voix, s'affranchissant à certaines heures de son rôle d'écho, tend à ramener progressivement l'esprit des hommes vers le goût du silence, du rêve et de la réflexion. Cela ramènerait peut-être les hommes vers la sagesse. C'est peut-être une voie. Les chemins qui aboutiraient à cette voie ne sont sans doute pas encore entièrement découverts, il en est qui se perdent dans les broussailles. Mais pour ma part, je ne désespère pas, sinon de les découvrir, du moins, de pouvoir aider ceux qui les cherchent. C'est particulièrement une des entreprises qui sont nées ici même et qui, dans une certaine mesure, ont déjà donné des résultats intéressants. Je m'aperçois que les questions ne viennent pas beaucoup en aide.
Ne sommes-nous pas devenus maintenant des amis de voyage ? Auditeurs qui nous avez suivis dans le sillage des ondes, c'est à vous de nous dire les escales que vous avez préférées. C'est à vous de suggérer les itinéraires. Auditeurs, c'est à vous d'indiquer les régions qui vous attirent. Régions de rêve, régions de réalité, peu importe. La radio se joue avec désinvolture du temps et de l'espace. La radio peut vous mettre en contact avec les réalités authentiques aussi aisément qu'avec les fictions poétiques.
C'était « Quand la radio s'interroge », les conférences du Centre d'études radiophoniques, 1948-1959. Avec Bernard Blin, Étienne Fuselier, Jean-Wilfried Garrett, Louis Lavelle, Paul Lévy, Vladimir Porcher, Samy Simon, Étienne Souriau. Extrait des émissions « Le sillage des ondes » et « La radio s'interroge ». Attaché de production, Inès de Bruyne. Archivina, Véronique de Saint-Pastou, Christelle Rousseau, Éric Gernaise. Archive écrite, Aurélise Boss. Mixage, Éric Boissé. Production coordination, Irène Omalianenko. Une émission de Christophe Deleu et Gaël Gillan.
Demain, à 23h sur France Culture, rendez-vous avec Manou Farine, Chloé Delhomme, Antoine Compagnon et Alexandre Geffan pour Poésie et Big Data. La semaine prochaine, dans Création On Air, mercredi, Amiravant de Judith Bordas et Oriane Abécassis. Jeudi, à la recherche de Marc Cholodenko par Christian Rosset et Manouchak Fachaï. C'est maintenant, avec Philippe Garbi, le temps des nuits.